On a commencé la nouvelle année, la semaine passée, on a eu un message qui nous parlait que le Seigneur nous dit de veiller, peu importe ce qui arrive dans cette nouvelle année, et on va en voir toutes sortes de combats, de luttes, de difficultés. Il nous dit de veiller. Pourquoi quand il nous dit de veiller? Parce qu'il est à la veille de revenir. Jésus est à la veille de revenir. Si c'est pas pour l'enlèvement de tout le monde, il va venir pour nous individuellement. À un moment donné, prête, pas prête, on y va. Puis il faut être prêt. Il faut pas la manquer, notre entrée dans ce royaume-là, parce qu'on peut s'éloigner, on peut se perdre. Puis il faut rester dans les voies du Seigneur, veiller et prier afin. C'est ça qu'il nous dit dans ces passages. Aujourd'hui, c'est encore une autre chose que le Seigneur veut nous dire. Ça a rapport encore au cours sur les faux prophètes. Mais pour faire une distinction entre les faux et les vrais, il faut connaître les vrais, les enfants de Dieu, ceux qui font partie de la famille de Dieu. Puis Dieu a un message pour son Église, pour son peuple. Il y a un mot d'ordre que le Seigneur veut donner à chacun de ses élus, autant que la semaine passée, il nous a dit « Veillez ». Cette semaine, il nous dit « Conserve-toi pur ». Il faut comprendre, frères et sœurs, que ce n'est pas des farces, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Le peuple de Dieu, sa principale caractéristique, c'est un peuple qui marche dans la sainteté, produit par le Saint-Esprit, bien entendu, par notre attachement, par notre vouloir obéir, oui, mais c'est un peuple qui marche dans la sainteté, dans la consécration, et nous devons nous conserver purs. Contrairement à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, vous allez voir, il y a des versets qui sont très clairs, vous allez comprendre ce que je veux en venir. Comment Dieu voit-il ta marche dans ce monde souillé et impur? Bonne question. On pourrait dire aussi, qu'est-ce qui nous distingue, nous, des autres, après avoir connu Jésus? Parce qu'on pourrait avoir connu Jésus, puis marcher encore comme le reste du monde, dans les impuretés, les souillures qu'on voit, puis on entend à journée longue. Quelles sont les attentes de Dieu pour ses enfants? Jusqu'à où est-ce qu'il veut qu'on se consacre? Il y a des versets qui parlent de cela. Puis ça, c'est notre but, frères et sœurs. C'est un mot d'ordre. Il nous dit, conserve-toi pur. Il y a des moyens que Dieu a donnés dans sa parole pour pouvoir être purifié. Mais il a aussi donné des instructions, puis il faut les connaître. Parce qu'est-ce qui nous distingue, nous, d'un faux prophète? On a parlé des faux prophètes. Ils sont pas ci, ils sont pas ça, ils sont comme ci, ils sont comme ça. Mais si moi je suis pareil comme eux, qu'est-ce qui me distingue? Je suis peut-être un faux. Je pense que je suis vrai, mais je suis peut-être un faux. Il faut s'analyser, frères et sœurs. Puis le Seigneur, il y a autant qu'il, vous allez le voir avec les versets, il y a un mot d'ordre, conserve-toi peu, mais il veut aussi nous amener là-dedans. Il veut nous aider. C'est pas automatique, c'est pas par nos forces, mais faut vouloir s'enligner dans ce chemin-là. L'apôtre Paul, lui, son cœur, quand il pensait aux brebis, une nouvelle brebis qui accepte Jésus, son cœur, il aimait tellement les gens, mais il était pleinement, 100% conscient de ce qu'il était en train de faire quand il amenait une âme à Jésus. Il nous le dit, il dit, le cœur de l'apôtre était d'amener chaque brebis à devenir une vierge pure pour la présenter au Seigneur. Il y a un travail là-dedans, ça se fait pas instantanément, vous allez comprendre. 2 Corinthiens 11, 2, ça nous dit cela, Paul, il dit, « Je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Quand vous pensez que Paul parlait, il veut les présenter, ces chrétiens-là, comme une vierge de peur. Quand Paul parle de faire cela, il parle-tu quand il amène les gens à Jésus? Mais non, ces gens-là étaient déjà à Jésus. Il parle qu'un jour, il va les présenter à Jésus. Lorsque Jésus viendra puis ramassera son Église, chaque personne, individuellement, va se présenter devant le Seigneur. Moi, je vais avoir à me présenter devant le Seigneur. Chacun de vous, vous allez le voir, les yeux dans les yeux, puis vous allez vous présenter devant le Seigneur. Puis ça, c'est pour, il dit, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Le Seigneur se cherche une épouse. L'Église du Seigneur, c'est la future épouse du Seigneur. Dans l'histoire qui va se dérouler après qu'on quitte ce monde, il va avoir les noces de l'agneau, puis le Seigneur va se marier avec son Église, à ceux qui sont trouvés dignes. T'as accepté Jésus à un moment donné, c'est correct. T'as passé par le lavage, t'es pardonné. Mais après ça, quand tu vas arriver à la fin de ta vie, tu vas être encore une vierge pure ou tu vas être une vierge souillée, impure, tout sale, parce que pur et impur, c'est sale, taché par nos péchés, nos souillures, les choses qui nous entourent, ce qui est impur. On a à se présenter comme une vierge pure, puis il veut nous présenter comme une vierge pure, Paul. Puis il a donné ses instructions dans la parole de Dieu pour qu'on y arrive. Puis moi aussi, je veux que vous vous présentiez devant le Seigneur comme des vierges pures. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur de prêcher la sanctification. C'est le processus de devenir de plus en plus pur, consacré au Seigneur. C'est la sanctification. Il faut que l'Église marche dans la sanctification, dans le désir de vouloir se purifier. Devenir pur pour devenir à être une vierge pure. Pensez-vous que le Seigneur va marier des prostituées?
Non.
Des vierges, mais qui se sont souillées avec d'autres esprits, d'autres dieux, d'autres des péchés. Elle arrive tout sale, puis plus vierge. Ça, c'est du côté spirituel, bien entendu. On est tous mariés, c'est pas humainement parlant que ça parle, c'est spirituellement. Il faut qu'on soit consacré au Seigneur. Nous portons le titre d'enfant de Dieu. C'est vrai, ça. On est devenus des enfants de Dieu en recevant Jésus-Christ comme notre sauveur personnel. Mais à cause de cela, nous devons nous purifier. À cause de ce titre-là, un enfant de Dieu ne peut pas se permettre de donner l'exemple d'un enfant de Satan. Il ne peut pas marcher dans les voies, dans les traces des hommes et des femmes qui servent le diable. On est des enfants de Dieu. On représente Dieu sur la terre. Dans 1 Jean 3, le verset 2 et 3 nous dit, « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. » Wow! Ça, c'est super! On est des enfants de Dieu. Il n'y a pas aucune autre famille plus importante que la famille de Dieu. Tu peux avoir une famille terrestre, une belle famille terrestre, une bonne famille terrestre. Tu peux les aimer au bout. Mais ça va passer, ça n'existera plus, mais seulement. Cette famille-là n'existera plus. Celle qui va rester, c'est la famille céleste, la famille éternelle, la famille de Dieu, ceux que Dieu a adoptés pour être ses enfants. C'est extraordinaire qu'on soit devenu son enfant. On n'est pas venu au monde enfant de Dieu. On le devient en recevant Jésus-Christ comme notre sauveur personnel. On est des créatures de Dieu, oui, tout le monde est des créatures de Dieu, mais on n'est pas tous des enfants de Dieu. On le devient. Dans ce passage-là, il dit, nous sommes maintenant des enfants de Dieu. Ça, c'est extraordinaire. À cause qu'on a passé par Jésus, on est adopté. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, parce que le fait d'être un enfant de Dieu, ça va être extraordinaire ce qu'on va avoir de l'air, mais qu'on soit rendu l'autre bord. Là, on est encore comme tout le monde. On a la ressemblance d'être humain standard. Les enfants de Dieu, le corps qu'on va avoir à l'autre bord, il y a des versets qui nous en parlent, comme dans Daniel. Ceux qui auront été sages et intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme des étoiles à toujours et à perpétuité. On va-tu avoir une petite différence d'être là? On va-tu avoir une petite différence d'apparence? Il dit, nous sommes enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. On va être semblables à Jésus quand on va arriver l'autre bord. Puis il y en a une vision de Jésus dans l'Apocalypse, au début des premiers chapitres de l'Apocalypse. Jésus, son apparence, son visage brille comme le soleil dans sa force. Ses yeux sont comme des flammes de feu. Allez lire ça, ça vaut la peine. Mais il dit, on va être semblable à lui. On va avoir des corps glorieux. Les anges, quand ils ont apparu, il y en a qui brillaient quand ils étaient ici sur la terre. Ils brillaient, ils éclairent, comme un éclair. Mais si les anges brillent, les enfants de Dieu, ça va briller encore plus. Ça va être extraordinaire ce qui nous attend. On va être comme Jésus, mais qu'on arrive là au bord. Verset 3, il dit, « Quiconque a cette espérance de se retrouver là comme un enfant de Dieu brillant dans le ciel, quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. » C'est là qu'on rentre dans « Tu dis que tu es content d'être un enfant de Dieu. » « Amen, moi aussi je suis content d'être un enfant de Dieu. Je suis content de faire partie de sa famille. » Je suis content, ce qui s'en vient, j'ai hâte d'y aller, et j'y crois à 100%, j'ai aucun doute. C'est autant que je sais que le meuble est là, je sais que ça s'en vient aussi. Mais il dit, quiconque a cette attente-là de se ramasser là, puis de vouloir ressembler à Jésus, doit aussi, ici, sur cette terre, se purifier comme lui-même Jésus s'est purifié. Comment Jésus s'est purifié? Il était sans péché. C'est le but. On n'a pas avisé un autre but que cela. Jésus ne pouvait même pas se permettre d'en faire un. Il dit, quiconque a la même espérance de se retrouver avec lui doit aussi sur cette terre marcher comme il a marché lui-même. J'ai pas gros dans la main. Gloire à Dieu. Chaque croyant, lorsqu'il vient au Seigneur repentant, il reçoit le pardon de ses péchés. Ça a coûté cher pour que nous soyons devenus purifiés, parce qu'on était tous déjà souillés, impurs. Là, on arrive à Jésus, puis il nous donne l'occasion d'être purifiés. C'est ce qu'on veut, devenir pur, mais il faut que tu passes par Jésus. C'est là que ça commence, le lavage, la purification. Puis le sang de Jésus nous a pardonné, nous a purifié à cause de l'œuvre qu'il a faite. Regardez dans 1 Pierre 1,18. Ça a coûté cher pour qu'on devienne purifié. Faut pas négliger cela. Ça a coûté la vie du Créateur. Il dit, sachant que c'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Mais c'est par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Fait qu'à cause de son sang au Christ, on a maintenant la possibilité d'être racheté. Pourquoi qu'on avait besoin d'être racheté? On appartenait à qui? On appartenait à qui avant de venir à Jésus? Au diable. C'est pour ça que Jésus fallait qu'il paye la dette. On avait emmené notre âme au pawn shop. C'est ça que c'était comme la même image. Puis on devait payer une dette pour pouvoir sortir du prêt. Mais c'était plus que prêté, il était en plein contrôle. Notre âme, au départ, appartenait à Dieu, parce que c'est Dieu qui est le Créateur, c'est lui. Mais en obéissant au diable, on était déjà livré. Ça a commencé à Adam et Ève, tout le monde est pareil, on est tous pawnés au diable. Il a fallu que quelqu'un paye le prix qui sont sortis de là. C'est qui? C'est Jésus. Ça lui a coûté sa vie, son sang. Son sang est versé pour qu'il puisse payer le coût que ça coûtait pour qu'on puisse être racheté. Racheté, ça veut dire que non seulement il était à nous en premier, on était à Jésus en premier, pardon, on était à Jésus, on est tombé des mains du diable, là il a fallu qu'il nous rachète, qu'il repaye encore un autre prix pour nous avoir. C'est pas avec n'importe quoi, c'est avec sa vie. À à sa conversion, le croyant reçoit le Saint-Esprit. Fait qu'en plus de nous sortir de ce que, du diable qui dominait sur nous, il nous donne le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est pas un objet. C'est pas un objet banal. Le Saint-Esprit, c'est le Créateur lui-même, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu trois fois saint, qui décide de venir en nous. Puis là, notre corps est devenu un vase, un contenant qui contient la présence du Dieu trois fois saint. Le passage que je vous ai lu tantôt dans Isaïe, juste le fait de voir la sainteté de Jésus, les anges qui criaient « Saint, Saint, Saint », c'était une scène incroyable, puis que là, tout tremblait, la terre tremblait à la voix de ces séraphins-là, les portes branlaient dans leur fondement, dans leur peinture. La gloire de Dieu était manifestée, a tombé sur sa face. Ce Dieu tout-puissant-là que les séraphins appellent « Saint, 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 le Seigneur Dieu », il est venu habiter en nous, ce Dieu-là. Là, il nous a donné le Saint-Esprit. Puis on voit ça dans Actes 2:38. Repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Tu passes à Jésus en te repentant, il te pardonne, puis il te donne le Saint-Esprit. L'Esprit du Dieu vivant entre en toi. Ça, c'est une promesse pour tout le monde. Il n'y a pas d'exception. La promesse est pour nous, pour nos enfants, puis pour ceux qui sont au loin. C'est pour tout le monde. Tout le monde peut le recevoir, le Saint-Esprit. Le fait d'accepter Jésus, c'est vouloir l'aide de Dieu pour sortir du monde pervers. T'acceptes pas Jésus juste pour te sentir mieux. T'acceptes pas Jésus juste parce que tu vas être plus heureux. Ou que tu penses qu'il va pourvoir plus à tes besoins. Il est pas là pour être à ton service. T'acceptes Jésus parce que tu veux sortir du monde pervers. C'est exactement ça qu'il a dit. Le verset vient de vous lire dans Actes 2:38. Il nous a dit, repentez-vous, puis vous allez recevoir le Saint-Esprit. Deux versets plus loin, au verset 40, il est encore en train de le dire, l'apôtre Pierre, et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse! » Fait que là, il invitait les gens à se repentir pour sortir de la génération perverse. Fait que le fait de vouloir accepter Jésus, c'est pas juste pour être pardonné, c'est pour aussi sortir de la génération perverse. Il veut pas nous pardonner puis qu'on reste encore les deux pieds dans la génération perverse. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est parce qu'on est à repentant, ça veut dire, je suis tanné de vivre dans cette vie de péché-là. Là, je vais à Jésus pour obtenir un aide, un secours. C'est le seul moyen donné par Dieu pour me sortir de là. Parce que je veux sortir, je suis repentant. Si j'encours mon cœur là-dedans, je suis encore là. Je ne suis même pas sauvé. Il ne nous pardonne pas parce qu'il fallait en premier vouloir sortir de cette vie-là. Voyez-vous? Qu'est-ce qui s'est produit? Ça nous dit qu'il y a 3000 personnes qui ont accepté, puis le verset 42, ça a changé des vies. Autant que ces gens-là, c'était tout du monde pervers parmi la génération perverse. Mais quand ils ont donné le vœu au Seigneur, la nouvelle vie a commencé, puis tout ce monde-là, il persévérait après ça dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans les fractions du pain, puis dans les prières. Quand tu donnes ta vie à Jésus, le Dieu trois fois saint vient en toi, puis là, tu as un changement qui se fait. Avant, tu voulais courir après le péché, puis là, tu veux sortir du péché, puis tu veux courir vers Dieu, tu veux prier, tu veux apprendre la parole de Dieu, tu veux tenir avec des chrétiens, parce que tu veux grandir dans le Seigneur.
Amen.
C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. Amen. Pour maintenir notre communion avec le Saint-Esprit, une fois que tu l'as reçu, nous devons marcher dans la lumière, et non pas dans les ténèbres. Il y a une différence entre les œuvres de la lumière et les œuvres des ténèbres. Dans 1 Jean 1, 7, nous dit, si, il y a toujours des conditions, si, un gros si, là, il est écrit en minuscule, mais pour moi, je le vois en majuscule. Nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière. Qui ça, lui?
Jésus.
Donc, tantôt, je vous disais, quiconque a cette espérance se purifie comme lui-même est pur. Ça veut dire, ça répète encore la même idée. Si je marche dans la lumière, comme lui-même Jésus est dans la lumière, ça veut dire, je marche dans ses traces, je marche dans ses pas, je marche à sa suite.
On est connectés.
Nous sommes mutuellement en communion. C'est là que la communion est parfaite avec le Seigneur. Quand tu marches dans ses, dans son chemin, dans le même chemin que lui, dans le chemin de la lumière.
On est connecté.
Puis là, qu'est-ce qui se passe quand que tu marches dans la lumière? Le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché.
Amen.
Amen.
Gloire à Dieu. Alléluia. Quand tu expérimentes cette vie-là, après ça, le Saint-Esprit t'emmène à comprendre comment ça marche. Au début, Alléluia, j'ai accepté Jésus. Tu sais pas dans tout ce que tu t'es embarqué, mais tu l'apprends au fur et à mesure. À mesure que tu écoutes les messages, que tu lis la parole de Dieu, tu écoutes le Saint-Esprit, il t'enseigne tellement qu'il y a une vie à cette heure. Être chrétien, je l'ai dit, déjà dit, c'est pas un titre, être chrétien. C'est un mode de vie. C'est une communion avec le Créateur, et le Saint-Esprit produit cette nouvelle vie en toi. Le Seigneur nous apprend vite le combat. On apprend qu'il y a des choses qu'il faut combattre. Il y a des choses qu'il faut résister, il y a des choses qu'il faut vouloir. Être plus fort dans le Seigneur, puis être capable de combattre contre les choses du monde. Là, il va nous enseigner, il va nous montrer les choses, il va nous délivrer, il va purifier notre conduite. On voit ça dans Tite, le chapitre 2, verset 12. Là, en parlant de la grâce de Dieu, elle nous enseigne à renoncer. C'est quoi qu'il nous enseigne? J'ai dit que le Saint-Esprit nous enseigne. Il dit, elle nous enseigne à renoncer. Il y a des choses en tant que chrétien qu'il faut renoncer. L'impiété. Qu'est-ce que c'est l'impiété? Tout ce qui n'est pas de la piété, c'est quoi de la piété? Hein?
Ce qui n'est pas de la piété.
La piété, c'est être un homme pieux. Un homme de prière, un homme qui aime entretenir une relation avec Dieu, prière, louange, garder le contact avec Dieu. Ça veut dire, faut que je renonce aux choses qui m'emmènent à pas être pieux. Donc, faut que je renonce à qu'est-ce qui m'éloigne de Dieu. Fait que la grâce de Dieu m'enseigne qu'il faut que je m'éloigne de ce qui m'éloigne de Dieu. Donc, il faut que je me rapproche de Dieu. Il faut que je renonce aussi aux convoitises mondaines. T'es un chrétien, t'es né de nouveau, t'as le Saint-Esprit, il va t'amener à être pur, à marcher dans les traces de Jésus, mais il va t'amener à renoncer aussi aux convoitises, aux choses qui nous intéressent, qui font partie du monde, puis qui sont défendues. Je dis pas qu'il faut pas manger, qu'il faut pas boire un verre de bière, c'est pas le monde, ça, là. Mais quand tu te saoules, oui, c'est le péché, c'est de la débauche. Puis j'en ai pas parlé, mais un jour je vais parler sur la sobriété. Aussitôt que le Seigneur va le permettre. Il faut résister aux convoitises mondaines, il faut renoncer aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent, comment je dois vivre, selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant que Jésus revienne. C'est ça que ça nous dit au verset 13. Verset 14. Jésus s'est donné lui-même afin de nous racheter de toutes nos iniquités, puis de se faire un peuple qui lui appartient, purifié par lui et zélé pour de bonnes œuvres. Fait qu'on a, de l'ouvrage à faire en tant que chrétien. Combattre, résister, refuser des choses, se laisser enseigner, poursuivre la piété, la justice, les choses sages. Qui vont me faire grandir, qui vont me garder des voies de Dieu. Puis le Seigneur va me purifier pour que je devienne purifié, pur, comme lui. Ils vont sortir le péché de ma vie. Ils vont m'aider à m'en débarrasser pour que j'aie la victoire dans ma vie sur toutes mes iniquités, puis que je sois zélé après ça pour les bonnes œuvres. Il y a plein d'œuvres à faire dans ce monde. L'évangélisation, c'est une des premières. Aider les gens après ça, mais l'évangélisation, si je pense, c'est une des meilleures, plus bonnes œuvres qui existent. Pour, c'est, il n'y a rien de plus bon que de vouloir sauver l'humanité. Le travail de transformation après notre conversion, ça s'appelle la sanctification. La transformation après notre conversion, ça s'appelle la sanctification. Tout le travail que le Seigneur va faire pour nous transformer et tous les efforts qu'on va mettre aussi pour résister quand c'est le temps, puis de confesser des versets de la parole, de prier pour avoir la force de Dieu. Tout le travail, c'est un travail d'équipe avec le Seigneur. Là, il nous transforme. La nouvelle vie en Jésus, tu reçois le Saint-Esprit, toutes choses sont devenues nouvelles, mais c'est pas automatique. S'il y a un changement, il y a une progression, il y a un travail, cette nouvelle vie qu'on a en Jésus, on change de plus en plus de devenir comme Jésus, c'est à mesure de notre révélation qu'on reçoit. Parce qu'il faut premièrement qu'il nous le montre, après ça, il nous donne le vouloir et l'affaire, puis après ça, on apprend à combattre, puis des fois, on trébuche, on tombe, on répète les mêmes affaires, des fois, on veut pas écouter, des fois, tu sais, il y a toutes sortes de raisons pour qu'on n'avance pas, mais on s'en va vers là, là. Puis on veut être là, puis on veut atteindre ce but-là, parce qu'on veut pas manquer notre shot. Pensez-vous qu'on a deux chances pour rentrer? Quand tu joues dans une game, dans un jeu, dans l'ordinateur, si tu perds, c'est extraordinaire, tu payes sur le piton, tu recommences une nouvelle game. Tu peux avoir des vies à volonté. Tu recommences. Tu peux répéter même 100 fois dans ta journée, parle 100 fois, et tu peux toujours commencer. Mais ta vie, là, terrestre, t'as une seule chance. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Il n'y a pas de reset, il n'y a pas deux chances. Il y en a juste une. Manquez pas votre shot. Vous êtes ici pour ne pas la manquer, en passant.
Amen.
Amen.
Le travail de la transformation après notre conversion, ça s'appelle de la sanctification. Devenir de plus en plus saint. Sanctification, ça veut dire devenir de plus en plus saint. Le mot saint veut dire consacré. Consacré à qui?
À Jésus.
À Jésus, à Dieu. Fait que tu veux devenir de plus en plus que toutes les parties de ta vie appartiennent à Dieu. Pas juste « Oh Seigneur, je t'ai donné un coin de ma tête, là. Je pense à toi le dimanche. » On va aller chanter le dimanche. Après ça, tout en sortant, là, j'ai ma vie à vivre. Non, c'est l'ensemble de notre être qu'il faut que ça soit pour le Seigneur. Tout notre temps, toutes nos capacités, nos dons, faut passer le Seigneur en premier. Fait que quand je retourne travailler le lundi, c'est pas pour travailler pour mon boss. Je vais travailler pour le Seigneur chez mon boss. Pas pareil. Je vis pour le Seigneur en premier. Je sers le Seigneur. Tout ce que je fais pour le Seigneur.
Amen.
Puis le travail de sanctification, c'est de combattre contre le péché. Ça avec, ça fait partie de vivre pour le Seigneur d'une manière que le Seigneur a trouvé que je sens bon. C'est une bonne odeur pour lui. Si je suis souillé par le péché, je sens pas bon, puis il faut que je passe par le lavage, il faut que j'aille demander pardon, puis demander qu'il me purifie. Parce que il peut pas rester là si ça sent pas bon. Pensez pas que Dieu est content quand on pêche, ou qu'à cause je reçois la grâce d'être pardonné par Jésus, que là je peux faire n'importe quoi, c'est pas grave. Pas du tout. Ça, c'est une interprétation mensongère. Ça fait partie des fausses doctrines qu'on entend aujourd'hui, que ceux qui ont reçu le cadeau du pardon des péchés, que là, ils peuvent vivre dans le péché, puis c'est pas grave. Contraire, c'est faux. C'est 100% grave, puis ils peuvent perdre leur communion avec Dieu, puis pas rentrer dans le ciel, même après l'avoir reçu. En Hébreux 12, 14, ça dit « Recherchez la paix avec tous. » Il parle avec des chrétiens, là, parce que ça se peut que des chrétiens, ça ait des troubles à faire. Mais il dit « Recherchez la paix avec tous et Il y a un beau « et », je le vois aussi en majuscule, « et la sanctification ». Il faut que tu recherches la paix et la sanctification. C'est quoi ça, la sanctification? C'est la transformation. Il faut que tu recherches à te consacrer au Seigneur toute ta vie. C'est le devoir des chrétiens de rechercher à être saint. Peu comme le Seigneur. Consacré au Seigneur. Sans laquelle, la sanctification, si tu n'as pas la sanctification, personne ne verra le Seigneur. C'est écrit, c'est pas moi qui l'ai inventé. Tu veux voir le Seigneur? Deviens saint. Consacre-toi au Seigneur. Accepte d'obéir quand il te montre de quoi. Il faut que tu avances avec le Seigneur. Il va changer ta vie, mais il faut que tu acceptes. Le plus gros combat que le Seigneur a, c'est avec notre volonté. C'est ce qui est le plus dur pour nous, de quand il nous montre de quoi, de dire oui. Parce que quand tu as donné ta vie au Seigneur, des fois, il veut couper des branches qui sont inutiles dans ta vie, mais il faut que tu apprennes à dire oui. Faut que tu deviennes un yes man. Paul avait compris, puis il reconnaissait que sa conduite était pure par la grâce de Dieu. C'est ce qu'il nous dit dans 2 Corinthiens 1:12. Car ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience que nous nous sommes conduits dans le monde, et surtout à votre égard, avec sainteté et pureté devant Dieu. Non point avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. Pas parce que Paul était meilleur que les autres, mais à cause qu'il s'est accroché au Seigneur, la grâce de Dieu l'a amené à vivre dans la sainteté et dans la pureté dans sa conduite avec les autres. Il est un exemple. Il était pas un des premiers convertis, mais dans les 6 000 premiers convertis. Écoutez bien les quelques versets que je vais vous rajouter. Pour être pur, on veut être pur. On a passé à Jésus, on est devenu pur. Disons, pour se conserver pur. 1 Timothée 5:22. Il ne faut pas participer au péché qui nous entoure, le péché des autres. Paul, il parle à Timothée, puis là, il dit « N'impose pas les mains à personne avec précipitation. » Et ne participe pas au péché d'autrui. Toi-même, conserve-toi pur. Pourquoi vous pensez qu'il mentionne le péché d'autrui? Quand tu vois du monde faire quelque chose, c'est bien plus tentant. Tu vois quelqu'un, là, c'est facile de se faire entraîner. Oh, as-tu vu? Elle m'offre d'y aller. Là, tu vois quelqu'un qui t'offre d'y aller avec elle puis d'aller en profiter. C'est du péché. Participe pas à son péché. Faut que tu sois capable de te conserver pur. Ça dit, participe pas au péché des autres. C'est un autre, c'est un voleur. Puis là, il te montre tout l'argent qu'il a ramassé. Toi, tu dis, c'est un bon moyen d'en faire rapidement. T'embarques dans son affaire, tu viens de participer à son péché. Tu vois du monde prendre un coup, fumer de la drogue. Oh, on est hit, nous autres, on est à la mode. Ben oui, ça a l'air le fun, ça a l'air le party. Participe pas à ses péchés. Un chrétien, son cœur doit être alimenté d'un désir vouloir saint, à être pur, à s'éloigner de ce qui déplaît à Dieu. La pureté, pour se conserver pur, ça commence où? Ça commence dans nos pensées. Qu'est-ce qu'on pense dans une journée? Quand il y a des mauvaises pensées qui embarquent, qu'est-ce qu'il faut faire avec?
Il faut les chasser.
Le diable nous en met, notre mémoire nous en met, parce que des fois on se rappelle de nos péchés qu'on a faits. Ça revient comme une tentation. Notre chair peut avoir le désir de recommencer une chose qu'elle avait déjà faite. Mais dans nos pensées, c'est là que ça commence, la pureté. Faut garder nos pensées pures. Si on a des mauvaises pensées, faut chasser ça. Jésus n'avait même pas une seule mauvaise pensée. Toutes les pensées qu'il avait, c'était les pensées de Dieu. Dans Philippiens 4:8, ça nous dit au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, ce qui est juste, ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de nos louanges, soit l'objet de vos pensées. Tous ces attributs-là, il faut que ça soit l'objet de nos pensées. Des choses peu, on va le répéter, trop bon. Tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, ce qui est juste, ce qui est pur, tout ce qui est aimable, ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux, digne de nos louanges, soit l'objet de nos pensées. C'est là que ça commence, la pureté. Si on entretient des pensées impures, pensez pas que vous êtes en train de marcher dans la pureté. Il faut combattre, résister, chasser ça. Il faut remplacer nos pensées par d'autres choses. Moi, quand j'ai des mauvaises pensées, il y a une secousse dans ma vie, je me secoue la tête pour changer d'idée. Mais tu peux remplacer ça par un chant. Commence à chanter un chant du Seigneur. Tu n'auras plus de mauvaises pensées. Gardez vos pensées en Jésus-Christ. En la parole de Dieu. Méditez la parole, méditez un verset. Tout ce qui fait partie de Dieu est saint. Puis ça va nous garder dans la sainteté. Nous devons racheter ce qui vient de ceux qui sont souillés. Quand il dit « participe pas au péché d'autrui », mais eux autres sont souillés et impurs. Il nous disait tout à l'heure « sortez de cette génération perverse ». C'est la corruption. Ils sont étrangers de la vie de Dieu. Ils ne savent pas comment faire pour marcher d'une manière sainte. Fait que si on rencontre des gens qui nous proposent des choses qui sont impures, perverses, rejetons cela. Dans Tite 1:15, ça nous dit « tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. » Quand Dieu voit les gens dans ce monde, il ne voit que des gens qui ont l'intelligence impure et souillée. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été purifiés par le sang de Jésus. À cause de leur ignorance, à cause peut-être qu'ils se sont endurcis, qu'ils ont refusé, peu importe la raison, ils pourraient être purs eux aussi. Mais si on choisit d'être impurs, nous, il faut faire attention pas tomber comme eux, parce que nous, on veut rentrer. Toute notre conduite doit être sainte. Dieu juge les gens sans exception de personne. Il ne fera pas d'exception. Ah, ben toi, Daniel, à cause que tu t'appelles Daniel, ben, je vais passer par-dessus tous tes péchés, puis ça ne me dérange pas. Non, non, ça ne marche pas de même. Dieu ne fait pas d'exception. Dieu, il est juste. S'il a déclaré des choses, c'est pour tout le monde. Puis Jésus s'est soumis à ces règles-là, puis lui, il a marché la vie de sainteté. Moi, si je veux le suivre, je dois me soumettre aussi aux règles du Seigneur, puis me marcher moi aussi sur ses traces, marcher dans la sainteté. 1 Pierre 1:15 pour nous dire cela, il nous dit, puisque celui qui vous a appelé est saint, avez-vous reçu l'appel du Seigneur? Vous avez-vous parlé dans votre cœur pour vous montrer qu'il est mort sur la croix, pardonner vos péchés? Et vous êtes attiré à aller au Seigneur pour être pardonné? Mais celui qui nous a appelés est saint. Trois fois saint. Puisque celui qui vous a appelés est saint, vous aussi soyez saints. Vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon ce qui est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Puis si vous invoquez comme Père celui qui juge l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Celui qui juge, on s'est approché, là, si on invoque comme Père, on invoque comme Père celui qui juge chacun, sans exception de personne. Mais conduisez-vous avec crainte durant le temps de votre pèlerinage. Il faut marcher le corps droit, les oreilles molles. Il faut se soumettre au Seigneur.
Amen.
pour marcher dans la crainte, parce que c'est pas nous qui tiennent le bon bout du bâton. C'est lui. Nous autres, on veut obtenir sa grâce, on l'a choisi, on l'a pris, mais avec sa grâce, il y a un chemin à rester fidèle. On veut se rendre, puis il veut qu'on se rende, puis il va nous aider à se rendre, mais on doit marcher avec lui, marcher dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière. Amen.
Amen.
Un dernier verset. Dieu, il dit, dans le verset que je viens de vous lire, il dit, si vous invoquez comme Père Dieu, celui qui juge sans exception personne, si on l'invoque comme Père, ça veut dire qu'on l'appelle Père, qu'on se croit ses enfants. Donc, c'est un devoir en tant qu'enfant de marcher d'une manière qui plaît à notre Père. Dieu veut être notre Père. Et pour le demeurer, nous devons rester purs. Et vous allez voir un verset qu'il dit. Dans 2 Corinthiens 6, à partir du verset 17. Ça va jusqu'au verset 7, chapitre 7, verset 1. C'est pourquoi, là, je n'ai pas lu ce qui était avant, je vais vous lire la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, on va avoir une suite d'aujourd'hui. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux, séparez-vous, dit le Seigneur. On ne peut pas vivre comme avant, unis avec le monde qui vit dans la débauche. On ne peut pas participer à leurs œuvres. Une fois que tu es un enfant de Dieu et que tu veux que ton père t'accepte comme son fils, il nous dit, sortez du milieu d'eux, séparez-vous, dit le Seigneur. Puis regardez bien l'autre verset. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Ne touchez pas à ce qui est impur. Il nous dit, marchez dans sainteté. Mais une fois que tu es chrétien, si tu veux, il dit, touche plus à ce qui est impur, puis je vais t'accueillir. La relation se développe et se garde parce qu'on avait le désir à vouloir devenir pur. Quand tu viens à Jésus, c'est parce que tu veux être pur. Tu veux être purifié de tes péchés. Tu veux rentrer. Mais si tu veux garder ta pureté, touche plus à ce qui est impur. Parce que tu peux, une fois avoir été sauvé, tu peux, après avoir été sauvé, redevenir impur. Si tu retournes te livrer dans l'impureté que tu vivais auparavant. Et il dit là, touchez pas ce qui est impur, j'accueillerai, je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Dernier verset, ayant donc de telles promesses, c'est une promesse extraordinaire que je puisse être un enfant de Dieu, que Dieu soit mon père, que moi je sois son fils. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. On veut expérimenter les promesses de Dieu, on veut goûter, on veut les recevoir, on les veut toutes les promesses de Dieu pour nous. Marchons d'une manière où ce que Dieu va nous donner son approbation et nous garantit qui va nous accueillir et que la relation va être dans la bénédiction. Il faut travailler à notre sanctification, à se purifier nos souillures de la chair et de l'esprit. Il faut continuer notre sanctification dans la crainte de Dieu. Prions. Seigneur, je te remercie pour ta parole qui nous enseigne à marcher dans la sainteté. Qu'on puisse se conserver pur. Seigneur, apprends-nous. Et aussi, lorsqu'on comprend des choses, qu'on ait la force de dire non à tout ce qu'on doit résister, à toutes les souillures de ce monde, qu'on puisse devenir de plus en plus pur pour toi. Garde-nous en communion avec toi, par ton Saint-Esprit. On veut tout ce que tu as à nous donner, Seigneur. Bénis chaque personne qui sont ici, donne à chacun de marcher dans cette pureté que tu t'attends. Et merci du travail que tu fais dans nos vies, dans le nom de Jésus. Amen.
Amen.